1 Chronique, chapitre 16, versets 11 et 12. Recherchez l'Éternel et sa force. Cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites, de ses miracles et des jugements de sa bouche. Bonjour à tous, frères et sœurs.
Bonjour
et bon sabbat. Que le Seigneur vous bénisse encore une fois en ce jour du Seigneur. La chose que j'ai à cœur de vous partager aujourd'hui, elle est directement liée à la conférence que nous avons eue, la conférence à distance que nous avons eue les 11 et 12 avril de cette année à Tahiti. Pour ceux qui n'étaient pas présents, cela aura quand même et cela fera quand même énormément de sens. Mais pour ceux qui étaient présents, cela en fera encore plus. Dans notre lecture biblique, la parole de Dieu nous présente un principe sur lequel j'aimerais que l'on puisse méditer aujourd'hui par la grâce de Dieu à travers sa parole et les déclarations de l'esprit de prophétie. Dans 1 Chronique, chapitre 16, versets 11 et 12, nous lisions « Recherchez l'Éternel et sa force, cherchez continuellement sa face. » Et après, il est écrit comment est-ce que nous pouvons rechercher sa force, comment est-ce que nous pouvons le rechercher et chercher continuellement sa face. Comment ? Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites, de ses miracles et des jugements de sa bouche. Et ici, c'est un concept très intéressant parce que il ne s'agit pas, le Seigneur ici, à travers sa parole, ne parle pas de choses floues, de choses incertaines, de choses intangibles, mais il nous dit de nous rappeler. La manière dont nous pouvons rechercher l'Éternel et sa force, la manière dont nous pouvons chercher continuellement sa face, ce n'est pas une activité, féerique ou je ne sais quoi, mais il s'agit bien ici de se souvenir. De se souvenir de quelque chose de concret, parce qu'il est écrit « Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites, de ses miracles. » Et comment est-ce que la pensée vient d'être conclue ici, par la parole de Dieu ?« Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites, de ses miracles et des jugements de sa bouche. » Souvenez-vous de ces merveilles, de quoi ? Des jugements de sa bouche. Souvenez-vous des choses puissantes qu'il vous a révélées à travers sa bouche, par sa parole. Hein, parce que ce qui sort de la bouche, ce sont des mots ce sont des paroles font des phrases renferment des pensées, et des pensées l'une à la suite de l'autre présentent des enseignements. Et donc, la parole de Dieu ici nous dit « Souvenez-vous des enseignements de Dieu, des jugements de sa bouche, de sa doctrine, des révélations de sa justice, de la pluie. » Souvenez-vous de la pluie. Vous voyez le lien ici ? En lien direct avec ce que nous avions vu dans Deutéronome chapitre 32, notamment verset 2, où le Saint-Esprit dit « Ma doctrine coulera comme la pluie, comme les ondées sur l'herbe et comme la pluie sur... Allons-y brièvement, que je n'écorche pas la déclaration. Deutéronome chapitre 32, verset 2, il est écrit « Ma doctrine coulera comme la pluie, Ma parole tombera comme la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des pluies abondantes sur l'herbe. Hein, c'est ce que nous avions vu, je n'y reviens pas. Mais vous voyez ici le lien. Souvenez-vous de ce que Dieu a fait. Souvenez-vous de ce comment Dieu s'est révélé. C'est comme ça que nous pouvons rechercher le Seigneur, en utilisant notre mémoire. J'aimerais ici lire une déclaration de l'Esprit de prophétie qui nous vient du livre Premiers Écrits à la page 271 et au paragraphe 2. Nous avons tout un train de pensées et d'activités ici qui sont qualifiées, qui nous sont présentées comme venant avoir lieu dans une période toute particulière à la fin de la citation. Et donc, je vous demande d'être attentif à ce qui vient et à tout ce qui prépare à cette fin. Je lis. J'entendis ceux qui étaient revêtus de l'armure proclamer la vérité avec beaucoup de puissance. Celle-ci produisait son effet. Plusieurs avaient été retenus de point, des femmes par leurs maris, des enfants par leurs parents. Les âmes sincères qui avaient été empêchées d'entendre la vérité l'acceptaient maintenant avec empressement. Toute crainte de leurs parents avait disparu. Seul comptait pour eux la vérité. Ils avaient eu faim et soif de la vérité. Elle leur était plus chère et plus précieuse que la vie. Je demandais ce qui avait produit ce grand changement. Hein, elle demandait, ce roi, il demandait. Un ange me répondit, de point, c'est la pluie de l'arrière-saison, le rafraîchissement de la part du Seigneur, le grand cri du troisième ange. Donc, comme nous avions vu ici, vous voyez que la pluie de l'arrière-saison est bel et bien assimilée au grand cri du troisième ange, à savoir que les deux sont simultanés et sont, à vrai dire, exactement la même chose. La pluie de l'arrière-saison, le grand cri du troisième ange sont présentés à un niveau d'égalité ici par la parole d'inspiration. Mais vous remarquez ici que toutes ces activités-là, sont le fruit, hein, sont la manifestation concrète de cette pluie. Donc, j'essaie de nous faire réfléchir sur ces manifestations directes qui sont un fruit extérieur de ce qui se passe à l'intérieur. Vous voyez ? L'esprit fait quelque chose, il enseigne, cela provoque une réaction intérieure qui ensuite se manifeste par des choix extérieurs. Je le lis, je reviens en haut, il est écrit, « J'entendis ceux qui étaient revêtus de l'armure proclamer la vérité avec beaucoup de puissance. Celle-ci produisait son effet. Hein, » vous voyez, il y a ceux qui sont mus de l'esprit, qui connaissent le message, qui ont été formés dans ce message-là, de cette pluie, hein, de cette voix. Et la parole qui est présentée produit un effet. Vous comprenez? L'esprit est en train de communiquer à travers l'instrument, et ensuite l'huile va couler dans les vases de chaque individu, et cet esprit qui est maintenant déversé, cette pluie qui est déversée dans chaque individu, respectivement, d'une manière toute particulière à chaque personne et propre à chaque personne, cela a un effet. De point, plusieurs avaient été retenus, de point, des femmes par leur mari, des enfants par leurs parents. Donc ça, c'était leur condition jusqu'à ce que ce message très, très tranchant arrive et très transformateur arrive. Et ensuite, nous lisons « Les âmes sincères ». Qui avait été empêché d'entendre la vérité jusque-là, l'acceptait maintenant avec empressement. Pourquoi ? Parce que ce message, la vérité qui est proclamée avec beaucoup de puissance par ces instruments, ces personnes qui sont revêtues de l'armure de la parole de Dieu tout entière, cette vérité-là, maintenant, il l'accepte maintenant avec empressement parce qu'elle a été elle a été présentée et qu'elle a produit, elle a eu un effet. Et quel est l'effet que cela produit sur ces âmes sincères? Elles acceptent maintenant cette vérité avec empressement. Pourquoi? Parce que la vérité prêchée avec puissance, avec quelle puissance? Avec la puissance d'en haut, la puissance du Saint-Esprit qui maintenant va être communiquée à travers l'instrument et qui ensuite va se répandre vers ces personnes qui l'acceptent, les personnes, quelles personnes? Les âmes sincères reçoivent cette pluie et elles voient que c'est ce qu'elles avaient toujours voulu, hein, nous avions vu, ces personnes-là étaient retenues jusqu'alors, mais quand elles entendent ce message qui ne leur a jamais été présenté de cette manière, elles disent en leur fort intérieur, c'est ça que j'ai toujours voulu. Et donc, elles acceptent la vérité avec empressement. Maintenant, avec empressement. Jusqu'alors, elles n'avaient jamais entendu quelque chose qui soit tant satisfaisant que cela les pousse à faire de tels changements dans leur vie. Vous voyez ici, la parole est prêchée, la vérité est présentée avec puissance, pas n'importe quelle vérité, pas n'importe quelle puissance, c'est la pure vérité, et c'est pas n'importe quelle puissance, c'est la puissance d'en haut qui avait été prophétisée dans Joël chapitre 2, verset 23, à savoir la pluie de l'arrière-saison, ou comme nous avions vu, comme c'est marqué dans la note de marge de la Bible King James, un enseignant de la justice, selon la justice, ou dans, comme c'est écrit dans la Bible Sassi, un maître qui vous enseignera la justice. Et ensuite, je lis, toute crainte de leurs parents avait disparu, pour ceux qui étaient retenus par leurs parents. Seul comptait pour eux la vérité. Ils avaient eu faim et soif de la vérité. Elle leur était plus chère et plus précieuse que la vie. Et donc vous venons de voir cette liste non exhaustive, mais quand même assez large de ces âmes sincères qui ont désiré la vérité, qui ne l'avaient pas jusqu'alors vue présentée d'une telle force, d'une telle puissance, d'une telle manière, et qui maintenant s'empressent de l'accepter et de la recevoir. Ces personnes qui avaient eu faim et soif de la vérité, et pour qui cette vérité était désormais plus chère et plus précieuse que la vie. Et maintenant, ce roi, elle dit, je demandais ce qui avait produit ce grand changement. Un ange. Et donc, elle demande, qu'est-ce qui a produit cet effet? Hein, je lisais juste avant, ceux qui prêchent, proclament la vérité avec beaucoup de puissance, à la suite de leur proclamation, qu'est-ce que cela fait? Celle-ci produisait son effet, c'est ce qui est écrit. Cette vérité prêché avec la puissance d'en haut, produisait son effet. Hein, c'est un effet sur le cœur des personnes touchées. Et ce roi était demande. Je demandais ce qui avait produit ce grand changement. Donc il y a eu cet effet dans le cœur qui a produit un changement extérieur poussant les âmes à prendre des décisions concrètes. Et Sir White voulait savoir d'où venait ce changement, qu'est-ce qui avait produit tout cela. Et on lui disait, c'est la pluie de l'arrière-saison, le rafraîchissement de la part du Seigneur, le grand cri du troisième ange. Et donc vous voyez ici, la pluie de l'arrière-saison provoque des impressions fortes du Saint-Esprit sur le cœur de chaque âme, de chaque brin d'herbe, parce que le Seigneur a soin d'arroser individuellement, précisément, chaque brin d'herbe avec l'eau nécessaire et propre à sa propre existence, à sa propre croissance, à son propre développement, à sa propre floraison. Et donc ça, c'est la déclaration brève que nous avions lue et que nous relisons encore aujourd'hui sur le schéma prophétique de ce qui se passerait dans le cadre de cette pluie de l'arrière-saison et ce que cela produirait, les effets que celle-ci aurait, comment elle viendrait à être proclamée, les effets qu'elle aurait et l'origine de ce changement qui est cette pluie, donc comme nous l'avons vu. Mais maintenant, frères et sœurs, hein, donc ce sont là les effets de l'esprit et les changements que ces effets et ces impressions entraînent. Vous avez des impressions. J'insiste sur ce mot parce que nous allons le retrouver plus encore davantage dans l'esprit de prophétie, dans un contexte assez particulier et qui donne encore plus de valeur à ce mot. Des impressions du Saint-Esprit dans la pluie de l'arrière-saison. Mais maintenant, nous venons de voir les effets et les changements qui sont provoqués dans les individus à travers cette effusion. Mais j'aimerais aussi attirer votre attention vers le fait que ces impressions et ces effets positifs de cette pluie ne sont pas les seuls éléments qui ressortent de cette pluie. Parce que il y a aussi, en lien direct avec les expériences vécues lors de la pluie de l'arrière-saison, il y a aussi, et on peut aussi s'attendre à des revers. À des revers, comme on pourrait dire des revers de médaille, mais ce n'est pas vraiment le sens, à des mouvements contraires, dans le sens et vis-à-vis de nos réactions à la parole qui est déversée sur le peuple de Dieu dans la pluie de l'arrière-saison. Hein? Nous avons lu ici les réactions positives, mais j'ai envie d'attirer votre attention vers les réactions négatives ou comme on pourrait dire, inverse en lien avec nos réactions positives à cet effet produit par la vérité proclamée avec puissance. J'aimerais pour cela attirer votre attention vers les paroles de Marc, chapitre 4, Marc chapitre 4, versets 14 et 15 d'abord. Nous lisons directement les explications de la parabole de Jésus du semeur qui sème la parole. Hein, vous vous rappellerez, Jésus a parlé de... il donnait cette similitude de quelqu'un qui sème sa semence et dont la semence tombe d'une part le long du chemin, ensuite d'autre part sur un endroit pierreux, et ensuite d'autre part parmi les épines. Et une autre partie encore, la quatrième je crois, tombe dans une bonne terre et ensuite elle rend son fruit. Merci. Mais ici, j'aimerais vous montrer, frères et sœurs, et nous faire cogiter et réfléchir attentivement à l'application des principes de cette parabole dans le contexte de la pluie de l'arrière-saison. Parce que rappelez-vous, comme nous avions lu dans Deutéronome chapitre 32, versets 1 à 2 et 3, et dans Joël chapitre 2, versets 23, où il était question du fait que Dieu nous enverrait la pluie à la fois de la première et de l'arrière-saison, et de cette note de marge qui présentait cette deuxième partie du verset comme en réalité quelque chose d'autre que ce qui nous est généralement, qui nous vient généralement dans nos versions générales et régulières. Nous avions vu que la pluie de l'arrière-saison, ce n'est pas quelque chose de flou ou d'incertain, mais c'est un enseignement. Hein, dans Deutéronome chapitre 32, verset 2, l'Esprit vient et dit « Ma doctrine coulera comme la pluie. » Et ma parole, je crois que c'est ça, excusez-moi, il faut vraiment que je m'en souvienne plus précisément de ce verset. Il est écrit « Ma doctrine coulera comme la pluie, ma parole tombera comme la rosée. » Et donc nous avions vu ici, je ne reviens pas sur cela, que la pluie de l'arrière-saison, il ne s'agit pas d'un moment ou de plusieurs moments d'excitation ou de moments successifs d'excitation, mais d'un déversement d'une communication de la doctrine de Dieu, de la parole de Dieu, et donc de la vérité pure de Dieu, comme nous l'avions vu dans cette déclaration de premiers écrits que nous venons de lire juste avant. Et donc, en lien direct avec cette pluie qui tombe, en lien direct avec cette doctrine qui est présentée, en lien direct avec cette vérité qui coule sur le peuple de Dieu, eh bien, nous pouvons nous attendre aux mêmes réactions dont Jésus avait parlé dans cette parabole du semeur. Vous voyez ici le lien. Hein, je n'ai pas fabriqué cela. Dans Marc chapitre 4, versets 14 à 15, nous lisons tout d'abord la première réaction que Jésus a énumérée. Donc prenons du temps, frères et sœurs. Hein. Après, nous avons d'autres choses que j'aimerais que nous puissions lire, mais prenons tout d'abord du temps à contempler notre propension à réagir de la manière qui est ici présentée dans notre réaction à la parole de Dieu, la parole que nous recevons. Je lis, Marc 4, verset 14, « Le semeur sème la parole. » Et autre part, il est écrit que le semeur, c'est Jésus. Le semeur, c'est le Fils de l'homme, je crois, qui est écrit. Verset 15, « Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux en qui la parole est semée, mais aussitôt qu'ils l'ont entendue, Satan vient et enlève la parole qui avait été semée dans leur cœur. » Donc autrement dit, il y a des personnes qui ont de tels préjugés, une telle résistance à la parole de Dieu, qu'il n'y a même pas de processus de réflexion. Directement, ils l'entendent, ils la rejettent. Vous avez rencontré des personnes comme ça? La parole est semée, directement le diable la prend. Mais qu'est-ce que ça veut dire quand il est marqué que le diable la prend? Est-ce qu'ils sont uniquement victimes du diable? Non, non, non. Parce que ici, nous avons été dotés du libre arbitre et la parole de Dieu, l'esprit de prophétie, tout particulièrement, nous dit que nous ne sommes pas entièrement victimes du diable, mais quand le diable a sa main dans notre vie, c'est parce que nous lui avons laissé la porte ouverte et il ne fait que ce que nous lui permettons de faire. De la même manière que Dieu ne fait que dans notre vie ce que nous lui permettons de faire. Donc en fait, le réel élément décisif dans notre vie et notre existence, en rapport avec notre obéissance à Dieu ou notre désobéissance à Dieu, ce n'est pas parce que nous sommes victimes de notre passé, de nos péchés passés, de nos décisions passées ou de nos facultés héréditaires, mais bel et bien, c'est en lien direct avec nos propres choix et la façon dont nous avons exercé notre propre libre arbitre. Et donc, comment est-ce que ces personnes-là ici, de cette première réaction, exercent leur libre arbitre pour qu'il soit écrit que Satan vient et enlève la parole qui avait été semée dans leur cœur? Eh bien, la parole, elle vient, ils disent « Non, je n'y crois pas, je veux rien, je ne veux pas savoir. » Et donc, en fait, c'est pour ça qu'il est écrit « Le Satan enlève. » Directement, il enlève. Mais comment? Parce qu'eux, ils disent « Je n'en veux pas. » Et donc, le diable, il dit « Ah ben, je te la prends. » Vous comprenez? Ce n'est pas juste que le diable, il prend. C'est que nous, nous disons « Nous n'en voulons pas. » Et donc, le diable peut prendre tout ce dont nous ne nous saisissons pas. Vous comprenez le lien? Nous ne sommes pas victimes du diable. C'est un choix qui est pris. Simplement, après, Jésus a présenté cela dans ce contexte en disant « Voilà, le diable, il enlève. » Pour dire qu'il a son rôle qu'il joue et parce que c'est comme un lion rugissant, je crois qu'il est écrit, et qui rôde autour, attendant pour pouvoir sauter sur sa proie. Eh bien, dès lors qu'une personne dit « Non, je n'y crois pas », il saute dessus. Il saute dessus, vous comprenez? C'est pour ça que Jésus il dit « Satan vient, il enlève la parole ». Il enlève la parole, ça veut dire qu'il saute comme un lion affamé et dit « Tu n'as pas voulu de la parole ? » Et ben voilà, je te la prends. Tu n'auras plus rien. Tu vas même pas te souvenir. Vous comprenez ? Donc ça, c'est une des réactions à la parole semée. Mais rappelez-vous, la pluie de l'arrière-saison, c'est un écoulement, un déversement de la doctrine de Dieu, de la parole de Dieu, de la vérité de Dieu. Donc, si nous avons en nous déjà cette disposition à rejeter la parole, qu'est-ce qui va se passer lorsque la pluie de l'arrière-saison tombe sur nous à travers la doctrine, la parole et la vérité pure de Dieu? Nous avions pris l'habitude de dire « Ouais, je n'y crois pas, je n'y crois pas, ça, je n'y crois pas. » Et quand la pluie, elle arrive, ben, on n'y croit toujours pas. Et donc, le Satan, il vient, il enlève ce qui a été semé dans le cœur. Et donc, on n'a presque aucune trace du fait que nous avons été bénis de Dieu, parce que nous avons immédiatement rejeté la vérité qui nous a été révélée. Première réaction. Ceux qui sont le long du chemin. Donc celle-ci, elle est assez claire et elle est assez tranchée et il n'y a pas vraiment d'effet. Il n'y a pas vraiment d'effet, pas que je puisse voir, hein, sauf si vous m'éduquez, mais de ce que nous pouvons voir ici dans ces deux versets, on ne voit pas d'effet de la parole dans la vie de ces personnes-là. Parce qu'ils rejettent directement. Donc, si la graine, elle tombe sur le sol, long du chemin, et que le corbeau, il arrive et qu'il la mange, ben, il n'y aura rien, c'est évident. Il ne peut pas y avoir quoi que ce soit, la graine, elle a été mangée. Sans graine, il n'y a rien. Sans parler du fait qu'elle n'est pas rentrée dans la terre. Mais s'il n'y a plus de graine, ben, c'est terminé. C'est la fin de l'histoire. Donc, sans la parole, si la parole est ôtée, si nous rejetons la parole, directement, c'est fini. C'est fini, notre histoire est déterminée, nous ne recevons rien du tout, et il ne se passe rien du tout. Mais après, nous continuons. Parce que ça, c'est le bas de l'échelle, pour ainsi dire. Mais après, cela devient plus nous avançons dans les réactions, plus cela devient élaboré vis-à-vis de cet échec de la fructification. Versets 16 et 17 de Marc chapitre 4. Je lis. De même, ceux qui reçoivent la semence dans des endroits pierreux sont ceux qui, ayant entendu la parole, la reçoivent d'abord avec joie, mais ils n'ont point de racine en eux-mêmes et ils ne durent qu'un moment, de sorte que l'affliction ou la persécution survenant pour la parole, ils sont aussitôt scandalisés. Donc ça, c'est la deuxième réaction que Jésus a énumérée. Et cette fois-ci, c'est légèrement différent parce que ces personnes-là, ici, qui reçoivent la semence, ou la parole, ou la doctrine, ou la vérité, qui la reçoivent dans des endroits pierreux, comme dans la similitude, là, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, la reçoivent d'abord avec joie. Et donc, ils disent, là nous parlons ici, frères et sœurs, des façons dont les âmes, les personnes peuvent recevoir et réagir à la pluie de l'arrière-saison, mais dont nous aussi nous pouvons recevoir et réagir à la pluie de l'arrière-saison. Si nous n'avons pas bien réfléchi au tenant et aboutissant de la parole présentée, mais que nous avons juste saisi des éléments qui nous ont excités, eh bien, nous aussi, nous pouvons réagir comme ce groupe ici nous est présenté comme réagissant. Comment est-ce qu'ils réagissent? Ils entendent, ils disent « Ah, c'est merveilleux, Seigneur, oui, nous remercions tout ce qui était ici présent, c'est merveilleux, nous sommes remplis de joie et tout. » Donc, il se peut que nous puissions avoir en nous-mêmes un sentiment de joie pour la parole qui est présentée, mais il est présenté ici que ce groupe-là n'ont point de racines en eux-mêmes et ils ne durent qu'un moment. Mais jusqu'à quand cela dure-t-il? Hein, vous voyez ici, c'est un groupe qui reçoit au début la parole avec excitation. Ils disent, nous y croyons, tout ça nous acceptons. Mais parce qu'ils n'ont point vraiment de racine, hein, parce que cela n'a pas vraiment, parce que la parole, hein, la parole est représentée comme une semence, parce que la parole n'a pas réellement plongé ses racines en eux, dans leur expérience interne, dans leur fort intérieur, parce que ils n'ont pas vraiment reçu la parole d'une manière exhaustive dans leur être, parce que la parole n'a pas jeté ses racines dans chaque recoin de leur vie. Hein, ils n'ont pas de racines en eux-mêmes, c'est ça. Que se passe-t-il? Ils ne durent qu'un moment, jusqu'à quand? De sorte que l'affliction ou la persécution survenant pour la parole, ils sont aussitôt scandalisés. Ah! Voyez là, le scandale ou la persécution est un moyen de cribler ceux qui ont reçu la parole dans les endroits pireux. Vous voyez? Dieu ne laisse rien au hasard. La persécution et le scandale, pourquoi? Pas à cause de vos erreurs. Pour la parole. Pour la parole. Si, après que nous ayons reçu la parole avec joie, nous en devenons scandalisés, nous sommes persécutés à cause d'elle, et que nous disons, alors là, je veux pas. J'étais d'accord au début, mais là, je suis scandalisé, on m'offense, on me persécute, on menace de me radier, alors là, non. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dès le début, je n'ai pas bien reçu. Vous comprenez ici? Et nous pouvons nous examiner, frères et sœurs, nous examiner. Est-ce que moi aussi, je réagis comme ça? Lorsque la parole, elle arrive, je suis content, mais lorsque ça devient difficile, là, il n'y a plus personne. Examinons-nous, frères et sœurs. Est-ce que je reçois la parole comme ça? Et comme ça, ça nous permet de... Ce n'est pas juste pour discerner les erreurs des autres. C'est pour se dire, est-ce que je reçois aussi, moi aussi, la parole comme ça? Est-ce que j'ai encore cette disposition en moi à abandonner les responsabilités qui se présentent à moi en lien avec la parole dès lors que cela devient compliqué, difficile ou que cela implique des persécutions et des scandales. C'est ça que nous voulons voir. Donc ça, c'est le deuxième groupe. Ceux qui reçoivent la parole des endroits pireux, et alors le problème, c'est qu'ils n'ont pas de racines. Et donc, vu qu'ils n'ont pas de racines, ça se présente dès que les choses sont difficiles, et ben le soleil commence à taper, hein, c'est une illustration. Il y a de la persécution, il y a de la difficulté, je suis affligé. Eh bien, mes propres racines, dans mon lien à la vérité reçue, mes racines en Christ ne sont pas très profondes, elles sont superficielles. Et ben, je commence à tout me flétrir parce que je ne puise pas ma sève spirituelle, mon hydratation spirituelle en Dieu. Je dépendais des circonstances, j'étais très superficiel, hein. Mais dès qu'il commence à faire très chaud, eh ben, les circonstances, elles ne sont plus du tout positives, plus du tout profitables. Elles ne vont pas aider à ma croissance, à mon confort de développement. Et là, ça va montrer que je n'ai pas ce bon système racinaire. Et là, ça va mettre en lumière le fait que mon excitation, mon élan du début, eh bien, j'aurais dû le jauger. Et cela aussi explique pourquoi ceci, pourquoi cela. Et cela nous aide aussi quand des personnes réagissent comme cela. Deuxième groupe. Et donc maintenant, le troisième groupe, frères et sœurs, nous lisons versets 18 et 19. Et là, ça devient un peu plus compliqué, un peu plus proche des eaux, comme j'aime le dire. Je lis. « Et ceux qui reçoivent la semence parmi les épines, ce sont ceux qui écoutent la parole. » Ah, là, c'est écouter les paroles de Jésus. Parce que là, il parle de personnes qui écoutent la parole. Ils ont écouté attentivement quand même. Là, c'est différent. Mais quoi? Mais les soucis de ce monde, la séduction des richesses et les passions pour les autres choses survenant étouffent la parole et elle devient infructueuse. Ah là, c'est plus compliqué, là c'est plus élaboré, là cela se rapproche plus de l'expérience même des âmes sincères, comme nous allons le voir juste après. Hein? Où est-ce que ce troisième groupe reçoit la semence? Parmi les épines. Et ces personnes-là, par contre, elles écoutent la parole. Elles écoutent, c'est-à-dire qu'elles reçoivent vraiment dans le sol. Le sol est bien. Il n'est pas comme dans les endroits pierreux. Selon ce que nous lisons des paroles de Jésus, le sol n'a aucun problème, si ce n'est qu'il y a déjà plein d'épines dedans. Vous comprenez? Et comment est-ce que Jésus traduit ces épines? Il dit, mais les soucis de ce monde, ou en autre mot, c'est les inquiétudes, la séduction des richesses, et quoi? Et les passions pour les autres choses. Ça fait beaucoup de choses. Survenant, étouffe la parole et elle devient infructueuse. Et donc, c'est ça, c'est ce troisième groupe ici. Donc, il y a le quatrième, bien sûr, qui reçoivent la semence d'une bonne terre. Et ce sont ceux qui écoutent la parole, qui la reçoivent et qui portent du fruit. Un grain 30, un autre 60 et un autre 100. Ça, c'est l'idéal. L'idéal, c'est cela. Mais pour arriver, frères et sœurs, l'idéal, ce n'est pas inné. Vous comprenez? L'idéal, c'est travailler. Travailler avec un « et », un accent aigu. Vous comprenez? L'idéal vient de ce qu'on a travaillé à devenir cela. Vous n'êtes pas de manière innée la personne qui reçoit la semence dans une bonne terre. Nous ne sommes pas une bonne terre, de manière innée, naturellement parlant. Parce que là, je crois que c'est dans Jérémie, il est écrit que le cœur est désespérément mauvais. Donc, ça, par définition, ce n'est pas une terre bonne. Mais la terre, nous la rendons bonne par par nos efforts à déraciner les épines. Vous comprenez? C'est ça vraiment. C'est ça tout ce que je voudrais que nous puissions contempler ici dans notre étude d'aujourd'hui pour que nous puissions apprendre à recevoir et à préserver les impressions du Saint-Esprit dans la pluie de l'arrière-saison. Vous voyez maintenant l'importance de ce message. Parce que pour nous de recevoir, c'est une chose. Et nous avons vu que si nous n'avons pas fait l'expérience de la première pluie, nous n'arriverons pas à discerner la dernière pluie, ni à la recevoir. Toutefois, le fait que nous arrivons à discerner et à recevoir la pluie de la saison n'est pas en soi une preuve que nous allons la garder, à savoir la préserver. Vous voyez maintenant? Donc là, nous arrivons dans un deuxième niveau encore, ou un niveau suivant, dans notre marche avec le Seigneur, notre progression dans le contexte et à l'intérieur de cette effusion du Saint-Esprit. Vous voyez, frères et sœurs. Et donc, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'arriver à ne plus être ces personnes qui, comme pour reprendre la similitude, reçoivent la semence de la parole de Dieu et de la doctrine du Saint-Esprit dans la pluie de la saison, comme parmi les épines. Vous voyez? Qu'est-ce que c'est ces épines? Les soucis du monde. Les soucis, les inquiétudes. Je reçois la parole, c'était vraiment merveilleux, ma terre était bonne, mais par contre j'ai des épines. Quelles sont ces épines dans ma vie? Dans ce premier exemple? Mes soucis, je suis inquiet, j'ai plein de choses à gérer, ma vie, elle est remplie à ras-bord de choses qu'il faut que je fasse. Il y a toutes ces choses qui viennent sur moi, les personnes m'appellent, ma famille me demande ceci et ceci, j'ai trop de choses, le travail, j'ai tout oublié. J'ai tout oublié, ça a été étouffé, la parole qui était merveilleuse, je l'ai perdu de vue. Je l'ai perdu de vue. Pourtant, c'était merveilleux. Pourtant, c'était puissant. Pourtant, j'ai rendu témoignage. Mais avec le temps, il ne faut pas beaucoup de temps. Et les épines, c'est coriace. Les épines, c'est quoi? C'est les buissons de ronces. C'est ça. Si c'était juste des épines, un petit arbre tout fin avec quelques épines, ça n'a pas de puissance. Les épines, ça veut dire des buissons de ronces. Et ça étouffe. Je sais, parce que ça fait beaucoup d'années que je ratisse les... Ratisse, ce n'est pas le mot, mais que je débroussaille des buissons de ronces, des buissons et des buissons et des buissons. Je peux vous dire que quand un buisson, il a vraiment pris, en dessous, il n'y a rien. Zéro, zéro, zéro. Rien d'autre que les épines, je veux dire. Il y a quelques petites plantes ici et là, des pissenlits, un peu de graminées, mais ça ne va pas très loin, quoi. Pourquoi? Parce que les épines, elles prennent tout. Elles prennent dans le sol. Elles prennent toute la nourriture du sol, toute l'eau du sol, toute la lumière qui vient sur le sol. Et donc, il n'y a rien qui pousse si ce n'est les épines. Ou plutôt, comme on dirait, les ronces. Les ronces. Et donc, nous, frères et sœurs, il faut que nous arrivions... D'une part, à arracher les ronces de notre vie, à empêcher les ronces de venir dans notre lot, pour ainsi dire. À garder les ronces dans la vie des autres, mais pas à prendre les ronces dans notre vie. Et comment est-ce que ça se traduit de manière pratique? Et à ne pas se laisser accabler par les soucis, les inquiétudes. Il n'y a pas que ça. Parce qu'il se peut que moi, je suis quelqu'un... Moi, mon frère, tu sais, je ne suis pas inquiet. Ah, mais attention, parce que ce n'est pas tout. Moi, mon frère, je ne suis pas inquiet. Les soucis de ce monde, ça ne me touche pas. Mais, est-ce qu'il y aurait les séductions des richesses? Ouh, il y a beaucoup de choses qui séduisent dans ce monde. Les richesses, les plaisirs, les voluptés. Vous comprenez? Séduction des richesses. Il y a des choses, il y a des personnes qui sont séduites par les richesses. Parce que, avec l'argent, on peut tout, comme on dit. On ne peut pas tout, mais ça, le diable aime bien nous faire penser que nous pouvons tout dès que nous sommes riches. Alors vous vous direz, oui mais mon frère, moi la richesse, ça ne m'attire pas, j'aime bien vivre simplement. Oui mais quand vous avez quelque chose dans votre compte bancaire, vous êtes bien content. Parce que l'argent, il vous permet d'acheter ces choses-là qui vous attirent. Donc peut-être on croit qu'on n'aime pas les richesses, mais on aime ce que l'argent peut acheter. Vous voyez? Donc en fait, lorsque vous faites le lien entre A, B, C et D, en réalité, vous réalisez que indirectement, vous êtes séduit par les richesses. Et Jésus il disait ça étouffe la parole. Pourquoi? Parce que je suis accaparé, mon attention est accaparée parce que je vais pouvoir faire avec mon argent les choses que je vais pouvoir acheter. Et avec cette méditation constante, la parole, elle sort à la fenêtre. Elle sort à la fenêtre parce que je ne suis pas mu par la contemplation qui m'a au début ébloui de la parole de Dieu, de la doctrine, de la vérité. Je perds de vue cela. Pourquoi? Parce que je suis séduit par les choses que je peux faire dans ce monde, les choses que je peux acheter, les choses que je peux construire, les choses que je peux bâtir, l'avenir que je peux me préparer. Et si vous continuez dans cela, la parole, elle va sortir. Pas ça, pas juste ça. Elle va être étouffée. Et donc, elle est en vous encore, vous la voyez, mais les ronces, elles sont gigantesques et votre parole, elle est là toute petite. Vous comprenez? Elle est là toute petite, elle ne grandit pas. Elle est nanifiée. L'esprit de prophétie nous dit que nous ne devrons pas avoir une expérience spirituelle naine. Eh bien, la façon dont nous commençons à avoir une expérience spirituelle naine, c'est lorsque nous permettons aux ronces de croître exponentiellement dans notre vie. Alors là, vous êtes sûr que votre vie spirituelle, elle va être toute minuscule. Et votre vie charnelle et mondaine, elle va prendre des proportions gigantesques. Qu'est-ce que c'est l'autre élément? Les soucis de ce monde, la séduction des richesses et les passions pour les autres choses. Alors là, Jésus, il a tout dit, quoi. Les passions pour les autres choses. Si j'ai une passion pour quelque chose qui vient prendre la place de ma passion pour Jésus, pour sa parole, pour sa vérité, pour son message, pour toutes les choses qui ont trait à la révélation de l'amour de Dieu, eh bien, cela va étouffer la parole. J'ai une passion pour des choses et cela vient comme une idole et Dieu devient secondaire. Voilà les choses, voilà les trois groupes, les trois réactions que j'ai listées à la parole de Dieu reçue et à la pluie de l'arrière-saison qui se déverse sur le peuple de Dieu dans ces derniers jours. Et ici, j'aimerais lire, frères et sœurs, une illustration vivante d'une perte des impressions du Saint-Esprit. Nous avons dans la parole de Dieu, Dieu nous a donné un exemple de comment cela arrive, comment cela se passe et comment cela se manifeste lorsque quelqu'un reçoit les impressions du Saint-Esprit et ensuite en vient à les perdre. Dans Daniel chapitre 2, versets 46 à 47, vous vous rappellerez que Nebuchadnezzar avait reçu un rêve. Il avait reçu un rêve et il avait demandé à tous ses serviteurs de lui donner l'interprétation de ce rêve. À tous ses astrologues, ses enchanteurs et ses chaldéens, de lui expliquer ses songes qu'il avait eus dans la nuit, mais pour lesquels, mais d'une part, dont il n'arrivait pas à se souvenir, et d'autre part, dont il ne pouvait pas, bien entendu, auquel il n'avait pas la réponse. Et ensuite, nous connaissons l'histoire, Daniel est venu et a donné l'interprétation au roi, il a donné toute cette explication, dans Daniel chapitre 2, verset 19, il est écrit « Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit, et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit « Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité, car c'est à lui qu'appartient la sagesse et la force, etc. » Et ensuite, il alla vers Arioc, et ensuite Arioc le présenta au roi. Et verset 27, il est écrit « Daniel répondit en présence du roi et dit « Le secret que le roi demande, ni les sages, ni les astrologues, ni les magiciens, ni les devins ne sont capables de le découvrir au roi. Mais il y a un Dieu dans les cieux qui révèle les secrets. Et il a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui doit arriver dans la suite des jours. Voici ton songe et les visions de ta tête sur ta couche. Ô roi, il t'est monté des pensées sur ta couche, touchant ce qui arrivera dans la suite, et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Et ce secret m'a été révélé, non qu'il y ait eu en moi plus de sagesse qu'en aucun des vivants, mais pour que l'interprétation soit donnée au roi, et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Et ensuite, il lui a dit, au roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense, d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de la statue était d'or fin, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses hanches étaient d'airain, ses jambes étaient de fer et ses pieds en partie de fer et en partie d'argile, etc., etc. Ensuite, il lui a dit, verset 37, « Toi, ô roi, tu es le roi des rois, auquel le Dieu des cieux a donné le règne, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, en quelque lieu qu'ils habitent, et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Et après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que toi, puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Il y aura aussi un quatrième royaume fort comme du fer, de même que le fer brise et rompt tout, ainsi pareil au fer qui brise et met tout en pièces, il brisera et mettra tout en pièces, etc. » La partie des pieds, etc. Et ensuite, il y a la pierre qui vient détacher sans le secours d'une main et qui vient briser le fer et les reins. Et ensuite, Daniel lui a dit, le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui arrivera si après le songe est véritable et l'interprétation en est certaine. Verset 46. Et alors, le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel, et il ordonna qu'on lui présentât des offrandes et des parfums. Le roi parla à Daniel et dit de point, « Certainement, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois, et il révèle les secrets puisque tu as pu découvrir ce secret. » Alors le roi éleva Daniel en dignité et lui fit de riches présents, et il établit gouverneur sur toute la province de Babylone et chef suprême de tous les sages de Babylone. Est-ce que vous voyez ici? Est-ce que vous voyez comment Nebuchadnezzar a reçu de fortes impressions du Saint-Esprit? Il a reçu de fortes impressions du Saint-Esprit et la parole, la vérité qui lui a été proclamée a produit son effet dans sa vie. Et cet effet l'a poussé à faire cette déclaration. Hein? Vous voyez cet effet, ce changement que cela a produit en lui. Il s'est prosterné sur sa face devant Daniel et a ordonné qu'on lui présentât des offrandes, etc. Et il a dit à Daniel, certainement, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois. Et il révèle les secrets puisque tu as pu découvrir ce secret. Nebuchadnezzar était ému, touché en son fort intérieur. Pourquoi? Parce que il avait ressenti le Saint-Esprit rendre témoignage à son esprit que ce que Daniel avait dit était la pure, céleste et sainte vérité. Et il s'est prosterné, il était encore idolâtre, donc il ne savait pas comment s'adresser, adorer le vrai Dieu, donc il s'est prosterné devant Daniel, du même acabit qu'il se prosternait probablement devant ses idoles, mais quand même animé d'un sentiment sincère d'humilité face à cette révélation de Dieu qui lui avait été faite. Et il disait, certainement Daniel, votre Dieu est le Dieu des dieux. Il disait, votre Dieu, il est tout supérieur à tous ces autres petits dieux. Moi que j'ai adoré pendant toute ma vie, à Daniel, ton Dieu là, il est plus haut que tous les dieux. Vous comprenez, Nebuchadnezzar, il était ému en son fort intérieur. Il disait, c'est ce que j'ai entendu là, personne ne me l'a dit, personne ne me l'a révélé. Jamais j'ai entendu cela. Tout cela est nouveau pour moi. C'est Daniel, tout cela, ce que tu dis, c'est vrai. C'est vrai, Daniel. Nebuchadnezzar a été touché en son cœur. Il avait reçu la présentation divine de la vérité et il était ému. Mais, parce qu'il y a un mais, Nebuchadnezzar fut fortement touché par les révélations de Dieu à travers le prophète Daniel. Mais, avec le temps, il perdit de vue ses fortes impressions. Les impressions étaient indéniablement de Dieu. Mais lui, avec le temps, il perdit de vue ses impressions. Que Dieu lui avait lui-même fait naître en son âme et conscience. Il les a perdus de vue. Comment nous savons? D'une part, nous lisons Daniel chapitre 3, verset 1. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or, Daniel chapitre 3, verset 1. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il la dressa dans la plaine de Dura, dans la province de Babylone. Et le roi Nebuchadnezzar fit assembler les satrapes, les préfets, les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les légistes, les juges et toutes les autorités des provinces afin qu'ils vinssent à la dédicace de la statue que le roi Nebuchadnezzar avait élevée. Et ensuite, verset 4. Et le héros cria à haute voix, « On vous fait savoir, peuple, nation et langue, qu'au moment où vous entendrez le son de la trompette, de la flûte, etc., etc., vous aurez à vous prosterner et à adorer la statue d'or que le roi Nebuchadnezzar a élevée. » Verset 6. « Et quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera au même instant jeté dans la fournaise de feu ardent. » Est-ce que vous voyez le contraste ici? Le contraste entre la réponse sincère, humble, émue des convictions profondes des Nebuchadnezzar au verset 46 et suivant de Daniel chapitre 2 avec cette nouvelle mise en scène, cette nouvelle activité de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar avait perdu de vue. Il avait perdu de vue ces fortes divines impressions qu'il avait reçues et auxquelles il avait lui-même rendu témoignage dans son entretien avec Daniel que nous venons de lire. Il était maintenant en train de faire une statue d'or tout entier. Alors que le songe qu'il avait eu, Daniel lui avait dit clairement, il lui avait dit, « Toi, ô roi, tu es le roi des rois, auquel le Dieu des cieux a donné le règne, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains les enfants des hommes, etc. » Et ensuite, Daniel avait dit, « Il t'a fait dominer sur eux tous, c'est toi qui es la tête d'or. » Daniel lui a dit, « Toi, tu es la tête. » Mais Nebuchadnezzar, il a dit à Nebuchadnezzar, le songe que Dieu t'a donné, c'est que toi tu es la tête, mais qu'après toi il y aura un autre royaume. Vous comprenez ici? Donc, le message que Daniel donna à Nebuchadnezzar en lui à la fois révélant le rêve qu'il avait eu et en lui donnant l'interprétation correcte de ce rêve, faisait comprendre à Nebuchadnezzar l'humble place qu'il occupait alors dans l'histoire des royaumes de la terre, à savoir que son royaume ne durerait pas à toujours. À savoir que son royaume n'était pas le royaume de Dieu parce que seul le royaume de Dieu demeure éternellement. Parce qu'il est écrit dans Daniel chapitre 2, verset 44, il est écrit, Daniel avait dit, et dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, et ce royaume ne passera point à un autre peuple, il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. Donc, voilà, et ça c'était... parce que ça, c'était ce royaume, il viendrait s'établir en lien direct avec la pierre détachée de la montagne qui viendrait briser le fer, les reins, l'argent et l'or. Et donc Daniel avait bien fait comprendre à Nebuchadnezzar que son règne, ce n'était que la tête. Et qu'après, il lui dit, et après toi, il s'élèvera un autre royaume moindre que toi, puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Et ensuite un quatrième royaume, fort comme du fer, qui était l'Empire romain. Et donc il avait reçu cela dans la vision. Et il avait accepté cela dans son témoignage. Mais plus tard, il a fait une statue tout d'or. Il a, pour ainsi dire, oublié délibérément, on pourrait dire, et rejeter le songe. Le songe dont il avait donné une telle approbation, auquel il avait donné une telle approbation, et qu'il avait si fort, pour vis-à-vis duquel il avait donné, exprimé de si fortes convictions. Il avait dit à Daniel, « Votre Dieu est le Dieu des dieux, Et il révèle les secrets, puisque tu as pu découvrir ce secret. Nebuchadnezzar, il avait dit, voilà, c'était un secret, maintenant tu m'as révélé. Mais plus tard, il s'est mis à faire une statue qui venait complètement à l'encontre de ce qui lui avait été révélé. Donc, les impressions qui lui avaient été laissées se sont dissipées. Et j'aimerais lire ici l'esprit de prophétie qui nous explique comment est-ce que ces saintes impressions, comme nous allons lire, se sont dissipées, se sont perdues dans l'expérience du roi Nebuchadnezzar. Je lis dans The Youth Instructor du 2 février 1904, paragraphes 1 et 2. Où il est écrit « Le rêve de la grande statue qui annonçait les événements futurs allant jusqu'à la fin des temps fut donné à Nebuchadnezzar afin qu'il comprenne le rôle qu'il devait jouer dans l'histoire du monde, ainsi que la relation entre son royaume et le royaume des cieux. » Vous voyez ? Ce rêve merveilleux entraîna un changement marqué dans ses idées et ses opinions, et pendant un certain temps, il, Nebuchadnezzar, fut influencé par la crainte de Dieu. Donc cette impression, elle resta avec Nebuchadnezzar pendant un certain temps. Pendant un certain temps, il fut influencé par la crainte de Dieu. Il marcha pendant un certain temps dans la crainte de Dieu. L'influence demeura avec lui, l'influence du Saint-Esprit sur sa conscience, ses convictions, elle demeura avec lui pendant un certain temps. Mais quoi? Voyez ici les leçons que nous recevons, frères et sœurs. Mais son cœur n'était pas encore purifié de son orgueil, de son ambition mondaine et de son désir d'exaltation personnelle. Son orgueil, son ambition mondaine et son désir d'exaltation personnelle, c'était encore vivant en lui, c'était encore actif en lui. C'était des principes qui n'avaient pas encore été purifiés de lui. Et donc, quand ils ont ressurgi, eh bien les saintes impressions qu'il avait reçues de Dieu ont été perdues. Vous voyez ? Ce rêve merveilleux entraîna un changement marqué dans ses idées et ses opinions, et pendant un certain temps, il fut influencé par la crainte de Dieu. Vous voyez, cette influence, elle resta. Mais ensuite, l'orgueil, l'ambition, le désir d'exaltation personnelle prit le dessus dans sa vie. Je lis. Le prophète Daniel décrivit au roi Nebuchadnezzar l'ascension et la chute des royaumes qui succéderaient à Babylone. Mais le roi ne retint pas la conviction qui lui vint à l'esprit concernant la chute de tous les gouvernements terrestres et la grandeur et la puissance du royaume de Jéhovah. Une fois la première impression effacée, il ne pensa plus qu'à sa propre grandeur et s'efforça de voir comment le rêve pouvait être tourné à son propre honneur. Et donc, qu'est-ce qui a été le début de ce train de développement interne qui l'a poussé à faire cela, que nous avons vu dans Daniel chapitre 3, où il a érigé cette statue à son honneur? Une fois la première impression effacée. Voyez ici pourquoi je voulais parler des impressions du Saint-Esprit. Parce que dès que nous perdons les premières impressions reçues, c'est la dégringolade vers le retour aux anciennes habitudes. D'où l'importance de recevoir et de tirer les leçons contenues dans l'expérience de Nebuchadnezzar en lien avec les révélations qu'il a reçues de Dieu, les impressions, nous venons de le lire, les impressions qui ont été produites par Dieu sur son esprit. parce qu'il est écrit, une fois la première impression effacée de son esprit, il ne pensa plus qu'à sa propre grandeur et s'efforça de voir comment le rêve pouvait être tourné à son propre honneur. Vous voyez ici la suite logique de choses qui mènent à une perte de vue des choses révélées et un retour dans les anciennes habitudes, l'orgueil, l'ambition, désir d'exaltation, de sa propre gloire, etc. De notre gloire, de nos plaisirs, de nos jouissances. Les passions pour les autres choses, comme nous avions lu dans Marc chapitre 4, que Jésus donnait dans cette liste. Les soucis du monde, de ce monde, la séduction des richesses et les passions pour les autres choses. Nebuchadnezzar, il avait probablement les trois combinés, quoi. Vous comprenez? Les soucis du monde, il est roi. La séduction des richesses, il était très riche. Il avait un royaume qui était florissant. Et les passions pour les autres choses, il était idolâtre. Il avait probablement plein d'autres choses à l'esprit. Vous comprenez? Tout ça était combiné. Le diable avait probablement ses agents pour le pousser dans le précipice et les impressions qu'il avait eues, elles ont été très très vite perdues. Et donc cela nous montre, frères et sœurs, j'espère que vous voyez ici, ça nous montre, ce sont des leçons qui nous montrent que si nous sommes profondément touchés, émus par les révélations de Dieu, dans la doctrine de la pluie de l'arrière-saison, eh bien, il faut que nous nous rappelions que notre cœur est très trompeur et que vis-à-vis de cette pluie, nous allons nous rencontrer nous-mêmes en rapport et vis-à-vis et surtout par rapport à nos propres propensions, nos propres inclination à revenir à nos vieilles habitudes. Je lis ici dans Youth Instructor, encore une fois, du 1er novembre 1904 et paragraphe 1, où il est écrit, encore une fois au sujet du roi, « Parce que Nebuchadnezzar ne continua pas parce que Nebuchadnezzar ne continua pas à marcher dans la lumière qu'il avait reçue du ciel, il perdit les saintes impressions qui avaient été produites sur son esprit. » Qu'est-ce que c'est? Comment est-ce que nous pouvons perdre les saintes impressions qui sont produites et qui ont été produites sur notre esprit, par le Saint-Esprit, dans la pluie de la première et de l'arrière-saison, lorsque nous arrêtons de marcher dans la lumière que nous avons reçue du ciel. Parce que Nebuchadnezzar ne continua pas à marcher dans la lumière qu'il avait reçue du ciel, il perdit les saintes impressions qui avaient été produites sur son esprit. Donc, dès qu'il commença à aller à l'encontre des choses qu'il avait reçues, même si c'était dans les petites choses, eh bien, les impressions furent perdues. Comprenez? C'est très graduel ici. Le diable ne va pas vous tenter à commettre l'adultère. Il va d'abord vous séparer graduellement des choses dans lesquelles vous avez cru fortement, mais qui nécessite une croix, mais qui nécessite pour que vous y marchiez dans elle, qui nécessite un renoncement. Et donc, vous serez tenté de ne pas renoncer à vous-même, de revenir dans les anciennes habitudes, et par là même, vous perdrez les saintes impressions qui ont été produites sur votre esprit. C'est vous voyez le processus ici. Processus graduel de la perte des fortes impressions, des fortes convictions dont nous sommes animés et qui nous font présenter un tel témoignage. Le témoignage est digne de foi. Simplement, nous ne réalisons pas à quel point nous ne sommes pas nous-mêmes dignes de foi. Le témoignage est le fruit de l'agissement, du mouvement de l'Esprit de Dieu sur nos consciences. Et il nous fait dire des choses qui sont la révélation des émotions profondes de notre cœur et de notre âme. Mais après, nous sommes confrontés à nous-mêmes lorsqu'il faut choisir entre faire notre propre volonté et marcher dans la lumière des choses que nous avons reçues de Dieu, qui demande de nous un effort concentré, répété et persévérant dans la justice, dans l'obéissance, dans la soumission, dans le renoncement au plaisir du monde et toutes ses passions pour les autres choses, comme nous avions lu dans Marc chapitre 4. Vous voyez ici, donc la pluie de l'arrière-saison, ce n'est pas juste qu'elle vient, bam, nous l'avons et c'est bon. Non, ce n'est plus, c'est beaucoup plus que ça. C'est que Dieu vient, nous instruit, et lorsqu'il nous instruit, nous en venons à comprendre et nous découvrons qui nous sommes. Nous découvrons qu'on ne peut pas vraiment, on ne peut même pas nous faire confiance à nous-mêmes. Vous voyez? Et donc, nous apprenons par nos erreurs et nos chutes, comme c'est écrit dans l'Esprit de prophétie, je crois, dans vers Jésus, à ne plus nous faire confiance à nous-mêmes, mais à faire plus confiance à Christ. Vous voyez? C'est fait pour ça. C'est fait pour ça, c'est conçu pour ça. Dieu sait comment nous allons réagir. Dieu sait que nous sommes sincères au début, mais qu'après nous perdons de vue les choses pour lesquelles nous étions si convaincus. Il sait tout cela. Il sait tout cela, mais ce n'est pas tout. Il veut nous aider, nous amener à apprendre à nous confier en lui plutôt qu'à nous confier en nous-mêmes, ce qui va inévitablement nous pousser à tomber dans le péché. Quelles que ce soit, les mauvaises habitudes. Je lis, mais Dieu, dans sa miséricorde, Nebuchadnezzar avait perdu les saintes impressions qui avaient été produites sur son esprit, mais Dieu, dans sa miséricorde, donna au roi un autre rêve, pour l'empêcher, si possible, de s'approprier la gloire qui appartenait au souverain suprême. C'est pour ça que Nebuchadnezzar a eu ce second rêve, parce qu'il avait perdu les impressions du premier rêve, produites par la révélation du premier rêve par Daniel. Vous comprenez? Parce qu'il n'avait pas vraiment d'impression au début. Il avait juste des impressions auxquelles il ne savait pas donner un mot. Mais ensuite, quand Daniel est venu et lui a révélé le songe que Nebuchadnezzar avait lui-même oublié et qui lui a donné l'interprétation, alors il a reçu les impressions. Mais ensuite, il a perdu ses saintes impressions parce qu'il a arrêté de marcher dans la lumière qu'il avait reçue du ciel. Et ensuite, Dieu dans sa miséricorde, qu'a-t-il fait? Il donna au roi un autre rêve. Et donc Dieu, il disait, en son cœur, il disait, Nebuchadnezzar. Dieu le connaît tous les cœurs. Il n'est pas surpris. Nebuchadnezzar, tu étais convaincu? Après, tu as fait ça? Mais après, vous rappelez, parce que Dieu connaissait le rêve de Nebuchadnezzar. Et donc, il a mis ces trois fidèles hébreux au milieu de la foule sur la plaine de Dura. Et ensuite, il a provoqué Nebuchadnezzar, parce que eux, ils ne voulaient pas se soumettre à cette statue. Jamais. Ils n'étaient pas idolâtres. Eux, ils servaient le grand Dieu, Jéhovah. Mais lui, il avait, pendant un bref moment, marché dans la crainte de Dieu, de ce vrai Dieu qu'il avait dit qu'il était le Dieu de tous les dieux, supérieur à tous les autres dieux. Après, il avait perdu de vue, et maintenant il était énervé parce que eux, ils ne voulaient pas faire ce que lui, il s'était engagé à faire, mais qu'il n'avait pas fait. Vous voyez, il avait perdu toutes les saintes impressions, et maintenant il était agacé parce que eux, ils faisaient ce que lui, il avait oublié de faire. Ce que lui, il avait décidé de ne plus faire, parce qu'il avait décidé de continuer à marcher dans ses autres habitudes, à l'encontre des grandes convictions qu'il avait reçues de Dieu. Vous voyez, il avait ce grand combat interne, et eux, ils venaient révéler cela. Ces trois Hébreux. Et ensuite, il a regardé dans la fournaise et il dit, je vois un homme marchant comme selon la ressemblance du Fils de l'homme. Et il disait, mais comment vous êtes sortis? Comment ça se fait que vous n'avez pas brûlé? Comment? Hein? Dans Daniel chapitre 3, verset 26, il est écrit « Alors Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise de feu ardent, il prit la parole et dit « Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu souverain, sortez et venez. » Alors Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Puis les satrapes, les préfets, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, de sorte qu'aucun cheveu de leur tête n'était brûlé, que leur tunique n'avait point changé et que l'odeur du feu n'avait point passé sur eux. Nebuchadnezzar prit la parole et dit « Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui se sont confiés en lui et qui ont violé l'édit du roi et ont livré leur cœur afin de ne servir et de n'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu, etc. De ma part, ordre est donc donné, etc. Et voilà. » Mais même cela, il a oublié après. Nebuchadnezzar, il a encore oublié après. Et c'est pour ça qu'après, Dieu lui a donné un deuxième rêve, un deuxième songe. Dieu, dans sa miséricorde, donna au roi un autre rêve pour l'empêcher, si possible, de s'approprier la gloire qui appartenait au souverain suprême. Et donc, frères et sœurs, il faut que je conclue de manière cohérente et impactante pour nous. Et j'aimerais le faire par les paroles de « Vous recevrez une puissance » à la page 33 et au paragraphe 3. Voilà comment nous fermons notre cercle de notre méditation aujourd'hui dans l'application à nous aujourd'hui. À la lumière de ce que nous avons vu et de cet exemple, cette illustration vivante de Nebuchadnezzar. Je lis. Le Saint-Esprit est un enseignant divin. Un enseignant divin. Un maître qui vous enseignera la justice. Le Saint-Esprit est un enseignant divin. Il dit, ma doctrine coulera comme la pluie. Ma parole tombera comme la rosée. Un enseignant divin. Si nous tenons compte de ces leçons, nous deviendrons sages à salut. Mais nous avons besoin de bien garder nos cœurs. Vous voyez ce dont je parlais? Nous avons besoin de bien garder nos cœurs. Pourquoi? Car trop souvent, nous oublions l'instruction céleste que nous avons reçue et nous cherchons à agir selon les inclinations de nos esprits non consacrés. Est-ce que Nebuchadnezzar a oublié l'instruction céleste? Et est-ce qu'il s'est mis à agir selon les inclinations de son esprit non consacré? C'est exactement cela, n'est-ce pas? Eh bien, son problème n'est qu'une illustration d'une autre. C'est pour ça que l'esprit de prophétie nous dit, mais nous avons besoin, hein, nous devons tenir compte des leçons que le Saint-Esprit nous donne dans la pluie de l'arrière-saison, dans sa doctrine, dans sa révélation de la compréhension juste et élargie de sa parole, dans sa vérité, nous devons tenir compte de ces leçons. Alors nous deviendrons sages à salut, mais nous avons besoin de bien garder nos cœurs. Bien mon cœur. Pourquoi? Car trop souvent nous oublions l'instruction céleste que nous avons reçue et cherchons à agir selon les inclinations de nos esprits non consacrés. Chacun doit combattre sa propre bataille contre le moi. Suivez les enseignements du Saint-Esprit. Si cela est fait, ceux-ci seront répétés encore et encore jusqu'à ce qu'ils soient gravés sur le roc pour toujours. Suivez les enseignements du Saint-Esprit et ils seront répétés encore et encore jusqu'à ce qu'ils soient gravés sur le roc pour toujours. toujours. Et donc ça nous ramène à notre lecture biblique de 1 Chronique, chapitre 16. 1 Chronique, chapitre 16, verset 11. Où nous lisons, pour conclure, recherchez l'Éternel et sa force. Cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites, de ses miracles et des jugements de sa bouche. Comment est-ce que nous pouvons, si nous avons perdu les impressions du Saint-Esprit, les faire revivre en nous? D'une part, nous pouvons demander à Dieu qu'il nous donne, pour ainsi dire, un autre rêve, qu'il vienne répéter les choses que nous avons perdues, parce que Dieu, dans sa grâce, dans sa miséricorde, a fait provision, a pourvu à cela. Mais d'autre part, il nous faut nous souvenir, revenir en arrière pour nous souvenir des merveilles qu'il a faites, de ses miracles et des jugements de sa bouche. Et lorsque nous faisons cela, la parole de Dieu équivaut cela à notre activité de rechercher l'Éternel et sa force, de chercher continuellement sa face. Donc mes frères et sœurs, vous qui étiez présents lors de la conférence du 11 et du 12 avril 2022, et vous qui n'étiez pas présents, mais qui recevez ici à travers la déclaration, les déclarations de la parole de Dieu et les révélations du Saint-Esprit en lien direct avec la pluie de l'arrière-saison, voici le message du Seigneur. Il nous faut garder, préserver, chérir et nourrir et retenir avec grande ferveur les impressions du Saint-Esprit. Et si nous avons perdu, il nous faut revenir en arrière dans notre mémoire pour contempler et demander à Dieu. Parce que nous nous sentirons des fois, nous disons, mais en fait tout ça c'était que des émotions. Non mes frères et sœurs. Ce n'était pas que des émotions, ce n'était pas que de l'excitation. Si tant est que nous avons reçu ces choses profondément dans nos cœurs, eh bien, c'était bel et bien de Dieu. Le diable dira que c'était faussé, que c'était un emportement. Mais ça, c'est un mensonge. La vérité, c'est que le Seigneur agit et que dans le contexte de cette pluie de l'arrière-saison, le Seigneur fait couler cette doctrine. Fait couler sa parole, fait couler ses vérités de l'adventisme primitif, originel. Mais que le diable n'aime pas ça. Et donc, il fera tout pour nous faire oublier, et il nous faut, pour cette raison, livrer un combat constant avec et au moi, à savoir à nous-mêmes, et à bien garder nos cœurs, pour ne pas nous permettre nous-mêmes de nous livrer aux inclinations de nos esprits non consacrés. Quand je me sens le cœur de me livrer à des choses qui ne sont pas profitables, qui ne sont pas nobles, eh bien, je ne peux pas mettre dans la balance les plaisirs de l'esprit et les plaisirs de la chair. Il faut que je sacrifie les plaisirs de la chair pour que je prenne plaisir aux impressions du Saint-Esprit. C'est ma prière, frères et sœurs, que nous puissions faire cela, que nous puissions nous nourrir spirituellement des choses spirituelles, parce que comme l'apôtre Paul il avait dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, c'est spirituellement qu'on discerne des choses spirituelles. On ne peut pas discerner, apprécier les choses spirituelles avec un esprit charnel. Et donc, il nous faut crucifier. Et c'est pour cela que cette activité-là, si nous voulons à la fois recevoir et préserver les saintes impressions du Saint-Esprit, dans la pluie de l'arrière-saison, il nous faut avancer chaque jour dans la mise en pratique des vertus chrétiennes actives que nous avons lues dans « Vous recevrez une puissance », page 25, paragraphe 2. Cela demandera un sacrifice quotidien de notre part Mais comme dit le dicton, il n'y a pas de couronne sans croix. Et en Christ, dans l'Évangile, il n'y a pas de vie sans mort. Il faut d'abord porter sa croix pour ensuite porter la couronne. Et il faut d'abord semer la semence et la faire mourir, sacrifier le grain pour ensuite obtenir une récolte au 30, au 60 et au 100, pour que nous puissions avoir ce cœur qui reçoit, qui est un terrain qui reçoit la terre et reçoit la semence dans une bonne terre. Une prière que nous puissions faire cela et marcher à cette lumière pour ne pas perdre les impressions du Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse tous, jusqu'à la prochaine fois, au nom de Jésus.